Pierre Musset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'ASA, Aide aux sans-abri, une association arrageoise de soutien aux plus démunis, ici dans la communauté urbaine d'Arras, mais aussi dans le Ternois. C'est une asso qui a plus de 40 ans maintenant. Alors.
Exact, tout à fait. Alors cette association a été créée en 1982. Donc vous voyez, ça fait quand même des années de fonctionnement, mais aussi d'apporter son aide et son savoir-faire pour les personnes les plus fragiles. C'est comme ça que l'association a commencé avec des bénévoles, et puis aujourd'hui on est à plus de 60 salariés. Tout ça, c'est pour vous dire aussi qu'il y a une dynamique conjuguée entre bénévoles, salariés, adhérents, des gens, des citoyens qui nous soutiennent, et tout ça fait la force de l'ASA.
Alors que fait l'ASA aujourd'hui? Quelles sont ses actions, ses différents dispositifs d'aide aux personnes?
Alors dès le démarrage, pour l'association, c'était la veille sociale. La veille sociale, c'était les personnes à la rue. Donc il fallait apporter son aide à ces personnes-là qui étaient dans l'errance sociale. D'ailleurs, jusque maintenant, on en parle. Il y a des comités de suivi de l'errance sociale. L'idée, c'était de pouvoir leur apporter les aides élémentaires pour pouvoir les mettre à l'abri. Puis par la suite, avec le temps, on a vu que ce n'était pas suffisant, il fallait aussi aller sur l'étape de l'insertion. Et c'est comme ça donc qu'a été développé des dispositifs d'hébergement et d'insertion. Pour venir compléter le travail de veille sociale, la mise à l'abri, oui, l'urgence sociale, oui, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi permettre à ces personnes d'accéder à l'autonomie. L'accès à l'autonomie par l'hébergement avec un travail éducatif pour pouvoir accéder à l'autonomie complète, c'est-à-dire de pouvoir se prendre en main.
Comment ça se passe, cette veille? Justement, il y a des véhicules de l'ASA qui tournent en ville et puis qui rencontrent les personnes sans-abri. Comment ça se passe?
Exactement, tout à fait. Donc, on a une équipe de rue sociale, mais aussi une autre équipe de rue sanitaire, parce qu'il y a aussi la question de santé qui s'impose à nous maintenant. Donc, il y a deux équipes de rue qui font les maraudes. On couvre tout l'arrondissement d'Arras, donc ce sont des maraudes assurées par des professionnels. Hein. Donc ce n'est pas juste aller apporter des soutiens, mais aussi de pouvoir anticiper ou préparer un projet d'insertion. Donc il y a des maraudes tous les jours, toute l'année, samedi, dimanche, jour férié, en journée mais aussi en soirée jusqu'à 21h du soir. Tout ça pour pouvoir aussi, si vous voulez, assurer cette mission, de venir en aide. Hein. L'aide aux sans-abri, c'est quand même ça. De pouvoir ne pas négliger une rue, un coin, une ville, un quartier. Quand le besoin se présente, il faut pouvoir y aller et apporter ses réponses. Donc c'est une équipe de rue professionnelle qui fait des maraudes et fait le lien avec les dispositifs qui existent. Vous avez la margelle, l'accueil de jour, c'est une mise à l'abri de jour, vous voyez, pour qu'on puisse aussi pouvoir leur apporter l'aide élémentaire, pouvoir prendre une douche, avoir accès à l'infirmière, avoir des repas et être en sécurité.
Et concernant la nuit?
Alors la nuit, nous avons une autre mise à l'abri, si vous voulez, mais de nuit dans ce cas-là. Dans cette partie de notre travail, il y a aussi un dispositif pour les héberger la nuit, avec un veilleur de nuit, mais aussi avec un travail éducatif qui est fait en journée, en fait, pour préparer la nuit. Donc ce sont des places aussi d'hébergement, mais d'urgence, de mise à l'abri, tout au long de l'année, là pareil, tous les jours, assurées aussi par des professionnels pour pouvoir mettre à l'abri, garantir la sécurité de ces personnes, et puis surtout de les préparer par la suite, de garder le lien avec les institutions, les dispositifs ou les associations pour entamer un projet d'insertion.
Comment vous voyez, c'est une question un peu générale, mais j'imagine que vous êtes aussi des observateurs attentifs de la situation sociale en France. Comment vous voyez l'évolution de la grande pauvreté de manière générale en France et puis en particulier dans l'Arrageois?
D'une manière générale, on voit quand même une augmentation de la précarité. Ça, on partage un peu ce constat avec nos partenaires et on le voit au quotidien. Il y a la question de la santé qui s'impose, la fragilité psychologique qui s'impose, la fragilité économique des personnes qu'on accompagne, la fragilité familiale, il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de cas très difficiles qui représentent beaucoup de difficultés multiples, si vous voulez, des difficultés qui nécessitent l'intervention de plusieurs intervenants. Ce n'est pas juste la mise à l'abri, il faut aussi apporter une aide sur l'aspect psychique, une aide sur l'aspect financier, une aide sur l'aspect familial. Donc vous voyez, on constate que plus le temps passe, plus on rencontre, on prend en charge des personnes avec des difficultés multiples. Et le fait d'avoir cette difficulté-là, bah, ça joue sur le temps de l'accompagnement, sur le temps de traiter ces problèmes, et donc sur le temps de la réinsertion ou bien de l'accès à l'autonomie de ces personnes. plus on a de difficultés, plus il faut être aussi professionnel qualifié, plus il faut avoir du temps nécessaire pour pouvoir aussi les accompagner et surtout avoir des propositions en face pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'accompagnement. Donc la précarité augmente, c'est un constat qu'on partage. Des difficultés multiples, c'est ce qu'on voit tous les jours au quotidien. Et des difficultés d'insertion, de sortie, parce qu'il n'y a pas non plus tous les jours ou chaque fois qu'on est prêt pour l'accès à l'autonomie, des propositions en face. Donc c'est un ensemble complet qu'il faut, sur lequel il faut agir pour apporter ce travail partenarial.
Et alors face à cette augmentation de la précarité, est-ce que les politiques vous allouent plus de moyens ou est-ce que au contraire c'est de plus en plus difficile comme dans beaucoup d'associations où les baisses de subventions se font ressentir?
Pour l'aide aux sans-abri, il y a une bonne mobilisation de l'État, mais aussi des pouvoirs publics, hein, des élus, que ce soit de la CUA ou de l'arrondissement d'Arras. Là-dessus, nous n'avons pas de difficultés à ce jour, mais comme les autres partenaires associatifs, certainement, comme c'est financé aussi à 100% par les pouvoirs publics, et quand on connaît les finances publiques, on peut toujours être inquiet ou avoir des craintes pour pouvoir subir aussi les baisses de subventions. Mais pour l'instant, tous nos financeurs se mobilisent pour maintenir le service que l'ASA propose actuellement. Donc il n'y a pas de, je dirais, par rapport aux moyens qui sont mis à disposition, pour l'instant, les moyens sont maintenus. On pense qu'ils sont suffisants pour le travail actuel, mais on est en train de réfléchir pour anticiper le travail d'après. Et le travail d'après, c'est d'autres mobilisations, c'est d'autres financements, c'est d'autres projets. Il y a l'existant, il faut le pérenniser, le renforcer, mais il y a aussi tout ce qui s'ajoute comme difficultés nouvelles. Donc il faut aussi anticiper un peu l'évolution de ces problèmes. L'évolution, c'est par des projets nouveaux qui doivent aboutir ou qui doivent, si vous voulez, sortir de terre.
Alors justement, des projets, je pense que votre association n'en manque pas. Quels sont les prochains projets sur lesquels vous travaillez
Alors pour l'ASA, ça a toujours été par rapport au constat opéré. Analyser ce constat, diagnostiquer, proposer des solutions. Alors parmi les constats actuels, c'est le vieillissement de notre population qui pose problème. Nos sans-abri vieillissent, et avec le vieillissement, avec l'âge, la dégradation de la santé, de leur santé, ce n'est pas toujours facile d'avoir des solutions en face. Donc l'accès à l'autonomie, bien sûr, c'est notre objectif, mais encore faut-il être capable d'être autonome dans son logement. Alors c'est pourquoi on est plus sur de logements adaptés actuellement, c'est-à-dire les pensions de famille qui répondent à cette nécessité de pouvoir proposer un logement adapté à la personne, et ce n'est pas la personne qui doit s'adapter à son logement. Donc un logement adapté à la personne, dans un collectif où il y a la présence des travailleurs sociaux. Donc on garde aussi le lien, ce n'est pas seulement le mettre dans un immeuble, un appartement dans un immeuble, seul, sans repère. Là, c'est plutôt avec l'équipe de l'association des travailleurs sociaux sur place, dans un collectif, donc il y a une veille régulière aussi sur les personnes, mais aussi en gardant la chambre individuelle, le logement individuel pour chacun. Donc là, on conjugue, si vous voulez, la demande, le besoin individuel avec la nécessité d'être dans un collectif, dans une petite société, pour aussi garder ses repères et participer avec les autres à la vie collective. En fait, il n'y a pas que être dans son logement, il faut aussi participer à une vie collective. Donc ce sont les pensions de famille. Et puis d'un autre côté, sur l'aspect santé, nous avons un lit Alte-Soie Santé. Alors ce lit Alte-Soie Santé, actuellement, n'a que 8 places pour les personnes malades en rue. On les met à l'abri pour pouvoir les soigner, et puis par la suite, travailler l'insertion. Ce n'est pas suffisant. On est sur un projet de pouvoir développer un peu ces places, mais là encore, il faut attendre les appels à projets, parce que ce sont des places autorisées par l'État. Et pour l'autorisation, il faut qu'il y ait un appel à projet. Parce que la santé devient aussi un élément important dans notre accompagnement et dans notre suivi des personnes sans abri. Et pour y apporter réponse, il faut penser à des lieux où on peut les recevoir, les mettre à l'abri, les stabiliser, les soigner pour qu'ils reprennent par la suite leur démarche d'insertion.
Près de la gare, donc, il y a un projet de nouveau lieu, hein, sur l'ancienne ressourcerie, il me semble. Quel est ce lieu? Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu du regard, du rapport au voisinage? Parce que il y a certains voisins, quand ils voient débarquer une structure d'aide aux sans-abri, ils peuvent s'inquiéter. Comment ça se passe un petit peu pour essayer de discuter avec eux là-dessus?
Alors c'est vrai aussi que quand l'ASA fait son diagnostic, propose des solutions, il faut passer à l'étape de la réalisation. Et la réalisation pour nous, pour l'insertion, pour être proche des autres, il faut toujours que ça soit proche aussi des centres-villes. Et donc c'est comme ça qu'on a pensé aussi avec les élus de la ville d'Arras pour notre projet actuel, c'est-à-dire l'accueil de jour et l'accueil de nuit. Donc les deux abris, la mise à l'abri de jour et de nuit, l'idée c'est de pouvoir les rassembler dans un lieu unique, un peu comme ce que j'ai dit pour les pensions de famille, si vous voulez. Il y aura des chambres individuelles, mais aussi on est dans un collectif avec des travailleurs sociaux sur place pour pouvoir aussi s'assurer de l'accompagnement et la préparation de ces personnes à l'insertion. Donc c'est ce projet dont vous parlez, c'est-à-dire ce projet au lieu de la ressourcerie actuelle, hein, donc c'est de pouvoir s'y installer, mais en intégrant un troisième volet qui est le tiers-lieu. Alors c'est une notion développée par la ville d'Arras et à laquelle on adhère, c'est-à-dire de pouvoir aussi travailler dans la mixité, la participation des riverains et l'ouverture vers le quartier. Hein, donc ce n'est pas juste un centre d'hébergement, c'est un centre d'hébergement de quartier, si vous voulez, hein, avec un tiers-lieu qui permettrait aussi aux riverains, aux bénévoles, aux adhérents, aux associations, de pouvoir venir aussi faire vivre ce tiers-lieu en y intégrant nos résidents et favoriser ainsi le vivre ensemble et puis l'insertion et l'intégration de ces personnes. Ce qu'on a constaté, c'est toujours la peur de ce public, mais c'est normal. On a eu ça ici en 2014, rue Gustave Colin. Avec le temps, on voit quand même que ça se passe bien. On assume notre travail, on assume notre public, mais aussi on favorise l'insertion et l'intégration dans un quartier. Les sans-abri que nous avons aujourd'hui, et même demain à la ressourcerie, ce sont des personnes d'ici. Hein. Plus de la moitié viennent de la CUA. Donc ce ne sont pas des gens étrangers, ce sont des gens de la commune, quoi. Ce sont des gens d'ici, de proches de nous. Et donc ce sont nos enfants. L'idée, c'est de pouvoir lutter contre la stigmatisation, de pouvoir travailler l'aller vers, d'inclure ces personnes, mais aussi de les amener à participer à la vie citoyenne. C'est pas juste de leur... On n'est pas seulement dans apporter aide et soutien, mais on est aussi en retour de cette aide. C'est une aide de la société. La société donne, mais aussi, il faut que la société reçoive. Ben, c'est notre travail de préparer ces personnes à ce qu'elles puissent aussi redonner au quartier, aux personnes qui vont intervenir, mais aussi à la société, en retour de tout ce qui a été reçu par les sans-abri.
Si on est intéressé, on peut être bénévole de votre association? Comment ça se passe? Quelle est la place des bénévoles dans l'ASA?
Alors l'association a été créée par des bénévoles, comme toute association. Chose étrange, nous, à l'ASA, parce que les Arageois connaissent l'ASA sous le nom de Petit Âtre. Voilà, donc le Petit Âtre, c'était vraiment un monument. Et donc c'était des bénévoles qui ont duré quand même, qui ont fonctionné. L'association a fonctionné avec des bénévoles 17 ans. 17 ans d'affilée. Vous vous rendez compte? Moi, dans mon parcours, je trouve ça formidable. 17 ans par des bénévoles, et puis après, on est passé au salariat. Et donc, avec le passage au salariat, donc les financements de l'État, le code de l'action sociale, il fallait professionnaliser. Donc, bien sûr, avec l'augmentation de nombre de professionnels, il y a eu moins de bénévoles, ce qui est normal, parce qu'il fallait passer à une autre étape. Maintenant, on est en train de regrouper un peu ces deux intervenants, parce que le bénévole, c'est aussi un intervenant social, hein, avec un statut différent. Donc l'idée, c'est de pouvoir les rapprocher pour pouvoir faire œuvre commune de nouveau, comme à l'époque quand l'ASA a été montée. Donc on peut devenir bénévole. Il suffit de postuler, de nous faire connaître, de venir nous voir pour dire que... Mais ce qui nous intéresse avec le bénévolat, c'est d'avoir des repères pour le public. Donc il faut aussi un engagement. C'est pourquoi on a préparé une charte d'engagement de bénévole, pour pouvoir aussi dire à quel moment je peux m'engager à assurer la permanence que j'aurai, ou bien les activités que je proposerai avec les sans-abri. On pense que les repères sont importants pour le public, parce qu'avec le repère, on est dans le temps. Avec le temps qui passe, il faut préparer l'avenir, et avec l'avenir, on est sur l'insertion et le projet personnalisé. Donc on peut devenir adhérent, on peut devenir stagiaire, on peut postuler, devenir salarié, parce qu'on a aussi des postes qui sont en train d'être libre, et surtout avec le nouveau projet, donc il ne faut pas hésiter, on fait un appel aussi aux bonnes volontés de venir nous joindre, parce que c'est une œuvre commune qu'on est en train de faire.
Pierre Musset, directeur général de l'ASA, Aide aux Sans-Abri, association arageoise de soutien aux plus démunis. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez devenir bénévole, rendez-vous sur le site internet asa62.fr, donc asa62.fr. Vacuum.